Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invité Sylvain Tesson, écrivain voyageur, pour ce livre En avant, calme et fou. Il sera question de bécane, vous allez comprendre. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe.
Olivier Benkemoun, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Et je salue Jean-Luc Lemoine, bonjour.
Bonjour monsieur.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez regardé le tirage de l'Euromillion, m'avez-vous dit ?
Non, pas du tout, j'ai menti. Non, pardon Philippe, mais je ne sais plus quoi regarder. Pendant la Coupe du Monde, les programmes, c'est un peu tout pourri.
Ah, c'est vrai.
On est d'accord.
Bien sûr, ils mettent les rogatons.
Ben oui, c'est ça, personne ne veut se faire taper niveau audience, donc on nous ressort
bien
les
sûr,
fonds de tiroir.
Beaucoup, beaucoup de rediff, bien
c'est
sûr.
C'est ça. Les seuls qui ont essayé de résister à la vague de maillot bleu, c'est les bérets rouges. Hein. Donc j'ai regardé TFX avec Appel d'urgence, présenté par quelqu'un que vous connaissez bien, Hélène Manarino.
Qu'on salue.
Et voilà, et c'était une spéciale recrutement dans les commandos para.
Exceptionnellement, nous avons pu suivre la toute dernière séance de sélection. Des épreuves à la façon d'un Koh-Lanta de l'extrême qui s'enchaîne sur 15 jours.
Bon, la seule différence, c'est qu'à Koh-Lanta, t'as une chance de repartir avec 100 000 euros si tu restes 3 heures sur un poteau. Hein, une grosse différence quand même. Pour les commandos, c'est presque pareil, il n'y a qu'à écouter.
Puis deux épreuves rouges, éliminatoires si on rate les deux. Deux montées de cordes avec 11 kilos sur le dos, puis 30 km à courir tout équipé.
Je pense qu'Hélène Manarino, ça fait longtemps qu'elle n'a pas regardé Koh-Lanta. Moi, rien que dans les premières épreuves, ça m'a fatigué. Vous avez fait votre service, Philippe ?
Pas du tout.
Pas du tout, ouais. Dites la vérité. Vous deviez être objecteur de conscience et vous êtes planqué dans une médiathèque à Jouy-sur-Yvette.
Hein ? On n'est pas très très loin.
On n'est pas loin.
J'ai été réformé.
Et vous, Olivier ?
Pareil, réformé.
Ah là, bah, moi aussi.
Ouais. Ah, une belle équipe, quoi.
Bravo. Ah, dis donc.
Ah bah si la France est attaquée, ils ne peuvent même pas nous appeler. Ils nous ont dit qu'on allait ralentir le groupe. C'est très difficile d'entrer dans les commandos par. Donc on suivait plusieurs candidats et là, on nous présentait le caporal Rémi.
Caporal Rémi, 26 ans, originaire de l'Ain. Principale qualité, il n'abandonne jamais.
Ouais, il présentait tous les candidats comme dans une série américaine. Principale qualité, il n'abandonne jamais. Et juste après, on nous montrait une épreuve de flexion de genoux entre les postulants.
Les candidats en sont maintenant à plus de 150 flexions. La fatigue commence à se faire sentir. Et oui. Le premier à s'arrêter, c'est le caporal Rémi.
Mais pourtant, il n'a jamais.
Il n'abandonne jamais.
Ça, c'était 3 minutes après nous avoir dit il n'abandonne jamais. De toute façon, il voulait trop nous survendre toutes les séquences. Parce que pour dramatiser, il y avait aussi des musiques de blockbuster.
Sous-lieutenant Bertrand, 26 ans, principale qualité, une résistance à toute épreuve. Effectuer son premier saut para, il l'attendait avec impatience.
Ouah, tu te dis avec cette musique, cette résistance à toute épreuve, tu vas avoir un saut de malade. Peut-être même qu'il va sauter sans parachute, le gars. Résultat, avec une voix off toujours aussi grandiloquente.
Tout semble prêt, sauf qu'à la dernière minute, problème de météo. Ce jour-là, il n'a pas pu sauter.
Bon bah non. Après, les apprentis commando devaient préparer leur sac pour partir en mission dans la nature et mettre ce qu'ils pensaient d'essentiel dans leur paquetage. Débrief de l'instructeur.
Il y a deux trucs qui commencent vraiment, mais alors vraiment à me gaver. Ça sert à quoi de partir en mission avec une brosse à dents, du shampoing et du gel douche ?
Bah ouais, bah moi j'aurais fait pareil.
Bah oui.
Parce que c'est pas parce qu'on fait la guerre qu'on doit avoir mauvaise haleine. Après, il y avait la pire épreuve du stage, le kidnapping. Vous imaginez, Philippe, si quelqu'un essaie de vous kidnapper à la sortie d'Europe 1,
oh là là.
Hein, et qu'après on nous demandait une rançon ? Bon, vous en faites pas, c'est très peu probable. Mais, et puis de toute façon, on ne paierait pas. Donc, à moins que vos ravisseurs acceptent les tickets restaurants, on ne vous reverra plus. Donc, nos postulants sont capturés, ligotés, emmenés dans une grange les yeux bandés et installés au-dessus du vide sur une petite passerelle pendant toute une nuit.
En clair, ils risquent de tomber au fond d'un trou, la fosse à Purin.
Ah ouais.
Ah ouais, franchement, en regardant l'émission, on se dit qu'on est content d'être chez soi, même avec des coupures de courant.
D'où le déodorant.
Ah bah c'est ça. Vient enfin l'heure des résultats et tu sens que la présence d'une équipe télé a un peu paralysé le langage des officiers.
Néanmoins, il faut que ce soit très clair. Donc, dès maintenant, dès cet été, il va falloir que tu te sortes les doigts dans tous les domaines où tu as des lacunes.
Une question me brûlait les lèvres. Sortir les doigts, d'accord, mais
oui,
d'où
mais oui. Dans tous les domaines.
Ouais. Dans tous les domaines.
Où tu as des lacunes.
Et pour finir, je voudrais vous faire entendre le cri de joie d'un candidat admis dans les paras.
Non, c'est un supporter, non?
Exactement, j'ai triché. Là. C'est le cri d'un supporter marocain après le match contre l'Espagne. Car ça aussi, c'était un exploit. Alors bravo le Maroc.
Ouais.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve sur Europe dans Historiquement Vôtre. Ça sera de 16h à 18h avec Stéphane Bern.
Et vendredi aussi à Mont-Solémine.
À Mont-Solémine, à la salle L'Embarcadère. C'est bien ça, c'est vendredi le 9 décembre.
Exactement.
Ah, il faut le dire. Si c'est vendredi, il faut le dire tous les jours. Stéphanie Loire, votre indispensable ce matin.
Je vous parle de la réédition d'un album collecteur de Queen, 33 ans après l'original. The Miracle.
Vous l'avez avec vous ?
Il est chez moi au show, à la maison. Je l'ai bien écouté. Je vous en parlerai bien en revanche.
Olivier Benkemoun, votre indispensable.
Hier soir, méga avant-première à Londres, non pas du film le plus attendu de l'année, mais du film le plus attendu de la décennie. Avatar 2.
Ah oui.
13 ans pour le faire, James Cameron. Et bah ouais, bah vous entendrez un peu de James Cameron. Et ouais, je suis comme ça.
Dans un instant, on sera avec Sylvain Tesson. On parle de son dernier livre, En avant, calme et fou. C'est sous-titré Une esthétique de la bécane. C'est tellement surprenant que je tenais à ce qu'il vienne dans l'émission. Mais d'abord, musique avec le nouveau titre de Phoenix sur Europe 1.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Écrivain, prix Renaudot pour La Panthère des Neiges. Vous avez récemment publié Blanc chez Gallimard. Dans la collection Blanche, c'est presque du Malevitch. Écrivain, mais également aventurier et voyageur. Vous avez traversé l'Himalaya à pied, 5000 bornes, traversé les steppes d'Asie centrale sur plus de 3000. Vous avez vécu 6 mois en ermite dans une cabane en Sibérie. Vous avez refait la retraite de Russie en passant par la Bérézina, qui porte bien son nom comme Napoléon. Mais sur un sidecar, et vous avez refait le périple de Laurence d'Arabie, toujours à moto. Et on voit tout cela dans ce très beau livre illustré, En avant, calme et fou. C'est sous-titré Une esthétique de la bécane, avec les photographies de Thomas Guasque. C'est publié par Albin Michel. J'aime beaucoup la quatrième de couverture parce qu'elle m'a épargné de creuser la tête pour faire la première question. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de constitution ordinaire et d'éducation classique, écrivez-vous, à s'asseoir un jour au guidon d'une motocyclette et à ne jamais plus rien désirer d'autre que d'avaler les kilomètres, torse immobile, regard perdu, la poignée des gaz enfoncée à fond vers l'horizon? C'est une très bonne question, je vous la pose.
La réponse, moi, me semble évidente. Elle est d'ailleurs contenue dans la question.
Oui.
Quand on est un adolescent, on n'a qu'une idée, c'est de s'enfuir, quoi.
Oui.
On a envie de la vitesse.
Oui.
Il y a un vers magnifique de Georges Perros, le poète qui avait fini sa vie en Bretagne sur une moto et qui disait « prendre l'air était mon métier ».
Ouais.
Et bien la moto offre ça.
Il y a une deuxième question dans la question. Quand on est adolescent, vous n'êtes plus adolescent. Qu'est-ce qui vous pousse à toujours le faire ?
Non mais ça, il faudrait le prouver que je ne sois plus adolescent. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence ? C'est le moment où on erre. Du verbe errer. Moi, je vais continuer.
Vous vous sentez toujours adolescent ?
C'est-à-dire, je ne suis pas arrivé au bout de mon adolescence. Qu'est-ce que c'est que le bout de l'adolescence ? C'est la métamorphose de l'âge adulte, où on devient raisonnable, plein de sagacité, de sagesse, on finit par s'asseoir, et puis on épaissit.
Ce qui m'a beaucoup séduit, et c'est cette question-là, cette fois-ci, elle est de moi, pourquoi cette ode au moteur à explosion ? Il faut que je raconte, on vous voit partout, avec vous êtes 6, il y a 3 sidecars, si j'ai bien compté, parfois il y a des motos. On vous voit partout dans le monde, dans les steppes de la Mongolie, sur des lacs gelés, en Orient, il fait chaud, il fait froid, il fait souvent trop chaud, il fait souvent trop froid. On voit des motos qui tombent dans des rivières, on voit en train de galérer. Tout ceci semble absolument sublimement beau, mais tout ceci semble faire beaucoup de bruit. Pourquoi cette ode au moteur explosion, au gaz d'échappement, alors qu'on ne parle que du bilan carbone et que tout est fait pour que qui ne prend pas les transports en commun se sente coupable ?
Oui, mais moi, je n'ai pas tellement une vision morale de l'existence et je me sens... je n'ai pas l'impression d'être rentré dans la vie comme on rentre au tribunal. Je n'ai pas non plus l'impression que je doive toujours opérer une plaidoirie de moi-même sur le prétoire de l'humanité. D'autant que finalement, la moto, pour moi, depuis 35 ans que je voyage un peu partout, comme vous l'avez dit, c'est une manière de rendre mes dévotions à la chose que je préfère au monde, qui est le mouvement. Et le mouvement, je l'ai exploré de toutes les manières possibles. À ski, à pied, en canot, à cheval... Même en restant immobile et en me déplaçant dans mon imagination, je me suis même défenestré un jour. C'est une forme de mouvement, quoi.
Oui.
Et c'est un mouvement vertical. Et la moto, ça fait partie de cette espèce de vœu que j'ai fait quand j'étais adolescent, justement, de vouer ma vie à me déplacer. Alors oui, d'accord, il y a le moteur à explosion, il y a le piston, il y a la bielle, il y a le cylindre. Mais enfin, si on veut jouer le jeu de la plaidoirie au grand procès institué à l'homme blanc occidental doté d'un moteur à explosion entre les jambes, c'est-à-dire le salaud, je peux, moi, opérer ma plaidoirie en disant que c'est un moindre mal. Je fais, moi, une majeure partie de voyage par l'effort musculaire et de temps en temps, ma face cachée, mon vice caché, ma face nord d'ecclésiastique, quoi, ma face ombragée, bah, c'est de m'asseoir sur une moto et de m'envoyer 2000 ou 3000 kilomètres les gaz à fond.
Alors là, pas de procès, mais juste une question esthétique. Vous dites mettre les gaz et semer sa folie, c'est pourquoi nous n'avons pas de scrupules à foncer dans les vents à bord nos Yamaha, à doubler les étapes, à planter la béquille devant un fort chrétien ou un castelet ottoman pour le traverser au pas de charge avant de remonter en selle. Et là, vous n'êtes pas adepte de cette nouvelle mode qui est, la doxa nous dit, il faut voyager lentement.
Bah, j'en suis adepte aussi, mais je suis adepte de tout, moi. Mmh. J'aime la vie, donc je ne choisis pas, moi. Je déteste trancher. Moi, je prends tout. Je prends la vitesse et je prends la lenteur. Et quand je prends la vitesse, je la prends vraiment. Moi, je fais comme Montaigne. C'est lui qui m'a appris à vivre. Quand je dors, je dors. Quand je danse, je danse. Donc, quand je suis sur une moto, je vais à fond. Et je ne crois pas qu'il y ait un rapport proportionnel entre la lenteur qu'on met à voyager et la valeur spirituelle du voyage. Je crois qu'il y a des gens qui voyagent très vite et qui captent tout, comme Laurence Durrel, par exemple. Laurence Durrel, dans le Quator d'Alexandrie, il fait l'apologie de la vitesse en disant « Plus on va vite, plus on s'oblige à être aux aguets, à tenir ses yeux aux aguets et son âme en haleine pour essayer de capter les choses. » Donc, vaut mieux foncer.
Et on vous voit sur une photo en train de le lire, justement, ce livre. Racontez la vie de l'écrivain anglais Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Vous avez refait son périple. Vous allez nous raconter comment. Il était officier de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. D'un mot, ce qu'il a fait a dépassé l'imagination. Il y a des jeunes qui nous écoutent qui ne savent pas qui était Lawrence d'Arabie. Il a vraiment existé, parce qu'il y a un film, mais il a vraiment existé.
Oui, oui, en 1916, le gouvernement, l'état-major anglais lui a demandé de fédérer les troupes arabes pour chasser les Turcs du Moyen-Orient. Et le rêve a dépassé la réalité. Il a fondé une espèce de révolte arabe. Il a unifié toutes les tribus de la Mecque jusqu'au Sinaï. Et ils sont montés chasser les Turcs et libérer Damas. Mais lui était un motard. Il roulait, il est mort
d'ailleurs. J'allais vous en parler, je l'ai découvert en vous lisant. Je ne savais pas ça du tout.
Ouais, il est mort sur une broue supérieure 1100 cm3, une très belle moto qu'aujourd'hui des passionnés sous l'égide d'un superbe ingénieur qui s'appelle Thierry Henriette sont en train de reconstituer à Toulouse. Et sur cette moto, il est mort sur une route du Dorset. Et lui a fait dans son livre « Les sept piliers de la sagesse » une ode à la vitesse. Mmh. Il aimait la vitesse parce que précisément elle calmait son feu intérieur. Il était tellement dingue, c'est un Britannique, hein. il y avait un terreau propice. Il était tellement dingue, il voulait tellement essayer d'échapper à son enfermement psychologique qu'il trouvait que la vitesse pour ça. Et il a mis la vitesse au service de sa propre folie pour essayer de la semer, mais il l'a mis aussi tactiquement au service de la couronne pour chasser les Turcs par la vitesse, parce que les troupes arabes, elles étaient en chameau, elles n'étaient pas à moto, mais elles opéraient des attaques commando, quoi, en fusant dans le désert sur les postes ottomans. Donc il a toujours voulu vivre vite pour essayer de ne jamais être en face à face avec lui-même, quoi.
Il y a des images sublimes, on va en reparler, des textes, une grande poésie. Vous écrivez, on vous voit à moto dans la neige, enfin on voit trois sidecars dans la neige, je montre l'image. Connectez-vous sur europe1.fr, vous les verrez. Vous écrivez ceci, nous ne serons jamais les mousquetaires du roi, nous n'embarquerons pas sur des galions de bois, les chevaliers sont morts, les sommets sont conquis, plus une île n'est vierge, et on parle anglais sur Mars, nous restent les sidecars dans la neige mongole. C'est les derniers territoires immaculés. Bah, on ne peut plus faire ça en France, on ne peut plus faire ça en Europe.
Oui, et puis on peut... Enfin, la moto permet de faire ça, parce que d'abord, ce sont des motos anciennes sur lesquelles nous roulons avec mes camarades Gouasque et puis tous les autres amis avec qui j'ai été en escouade. C'est toujours des motos qui ne marchent pas très bien, quoi. Moi, je n'aime pas la technique.
Je souris parce qu'il y a plein de photos de motos qui sont couchées sur le flanc avec le moteur désossé. Mais on se demande comment elles vont repartir le lendemain.
Et c'est des motos qui ont échappé à cette horreur de la technologie, des innovations, de tout ce langage débile de l'application technologique. La technique, c'est quand...
Attendez, dites pas ça, parce qu'à la fin, vous roulez en Yamaha, il y a une ode à la Yamaha qui marche très très bien, qui n'est pas en panne.
C'est vrai.
Mais vous êtes content, vous étiez sur des motos russes, je ne savais même pas que ça existait, des motos russes fabriquées en Ukraine et qui roulent encore.
Ouais, des Dniepr, des Ourals, des motos... Moi, j'avais proposé un slogan à l'usine, je leur avais dit, vous pouvez faire un slogan publicitaire en disant « Rien n'arrête une Ural, pas même ses freins ». Mais ils ont pas voulu, ils ont trouvé que publicitairement c'était contre-productif, ce qui est idiot. Oui. Mais c'est des motos qui demandent quand même un entretien permanent, quoi, que moi je suis incapable d'apporter d'ailleurs. Mais l'aventure commence quand ça marche plus, quoi.
Est-ce que l'aventure ne commence pas parce que vous mettez dans des situations extrêmes? Le plus gros froid, ce fut lequel?
Sur le lac Baïkal, quand on a fait le tour du lac Baïkal en 2005 avec trois sidecars Ural 600 cm3, il y avait des jours où ça tombait à moins 30 ou moins 35 la température, mais avec le vent relatif puisqu'on est dehors, puisqu'on est à moto, puisque prendre l'air est notre métier, ben, de temps en temps, avec le vent relatif, la température doit tomber autour des moins 40 ou moins 50 peut-être, et là il faut quand même mettre ses gants.
Ce qui est un miracle, c'est qu'elles démarrent les motos.
Oui, elle démarre quand on fait fondre l'huile avec un chalumeau, quoi. Il faut vraiment... Il y a tout un cérémonial, quoi, de départ, quoi. C'est une liturgie de faire marcher une moto. Et d'ailleurs, quand la moto russe marche, il y a quelque chose de religieux, hein. C'est le miracle.
Ces voyages ne sont pas gratuits, ces périples ne sont pas gratuits. Vous écrivez ceci qui m'a amusé. La différence entre un sidecar et un cheval, si le sidecar rend l'âme sur la route de la retraite de Russie, on ne peut pas le manger. Ça fait une référence à la retraite de Russie des troupes napoléoniennes. C'est dans le livre de Sylvain Tesson. Culture Média continue, on marque une courte pause. Le temps de refaire le plein, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Sylvain Tesson, je parlais de blanc et je parle aussi de ce livre illustré, très beau livre pour Noël. En avant, calme et fou, une esthétique de la bécane durant tous vos voyages. Ils sont étalés sur combien d'années? Parce que ce n'est pas juste un récit récent.
Non, j'ai commencé en 96, quoi. Ça fait, je sais pas, 30 ans peut-être.
Vous écoutiez de la musique? Vous écoutez de la musique à moto ou pas? Ou la musique, c'est le monocylindre qui...
Oui, oui, ça fait partie de cette espèce d'état d'abrutissement qu'on cherche, quoi.
J'osais pas le dire.
Non, mais il y a comme une transe tibétaine, quoi. Quand on fait de la moto, c'est pour ça, quoi. On veut sortir de soi, on veut tout oublier. Le moulin contribue ça à vous mettre dans un état d'hypnose.
Mais
quoi.
J'y pense à l'instant, c'est le home, la syllabe magique. Om. Mais bien sûr, sur une seule note.
Mais le moteur à explosion, c'est cosmique, quoi. C'est un petit big bang qu'on a entre les jambes et qu'on peut d'ailleurs faire à qui on peut donner une expansion avec un simple geste du poignet sur de la main droite, quoi. Il y a quelque chose de tout à fait religieux, quoi, dans le pilotage d'une moto.
Et est-ce que vous êtes nostalgique des motos à l'ancienne?
Mais bien sûr, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse d'ailleurs. C'est la conduite de motos vintage, hein, je crois, on dit maintenant.
Vintage.
Oui, c'est ça.
Pas d'ABS. Pas d'ABS, pas d'électronique.
Non, et puis surtout des lignes. Des lignes, des formes, des silhouettes, quoi, qui ressemblent à quelque chose.
Et dernière question, le plaisir de se perdre, ça existe pour vous ou pas du tout? Ou est-ce que vous êtes fervent adepte du GPS?
Non, on est des fervents adeptes des cartes, mes amis et moi. Et Guasque aime les vieilles cartes. Et d'ailleurs, on pousse l'espèce de volonté d'être tout à fait hors de l'époque et de faire un pas de côté en se perdant sans cesse. Et de toute façon, on ne se perd pas beaucoup parce qu'on avance très peu, étant donné que ça tombe souvent en panne.
C'est l'avantage.
Stéphanie Loire, rebonjour.
Bonjour, bonjour Sylvain.
C'est Vintage, ce dont vous allez nous parler. On parle de musique, mais exactement. C'est un album collector. Il a 33 ans. Il ressort après l'original.
Et cet album-là que je vous présente, c'est un très bel objet musical à offrir aux fans de Queen. Si vous êtes à court d'idées cadeaux ou que vous réalisez tout simplement qu'une 28e écharpe pour Noël, ça fait beaucoup pour un seul homme.
Tellement.
Je vous présente la réédition du 13e album studio de Queen intitulé The Miracle. Un album qui contient notamment le single I Want It All que vous connaissez tous.
Bien sûr.
Ici, remasterisé avec un traitement son actuel. C'est pas mal à écouter en moto, ça, Sylvain Tesson,
bon,
non?
C'est, bon.
Ah, c'est bien.
Mettez le casque, d'ailleurs, il y a une écoute sublime ici dans ce studio.
Cet album, il a été enregistré en 1989 après une longue période de pause pour le groupe Queen. C'est le tout premier disque qui va sceller une nouvelle ère pour Queen, puisque c'est la première fois que tous les membres de la formation vont co-signer officiellement toutes les chansons, ce qui va amener un climat vachement plus apaisé au sein du groupe.
Et oui, puisque tout le monde touche des droits d'auteur.
Exactement, voilà.
Ça change tout, sinon il y a beaucoup de groupes qui se séparent à cause de ça.
À cause de ça.
Parce qu'ils n'ont pas composé la chanson et ils gagnent moins que celui qui a composé.
Ce n'était pas le cas. Cette édition, elle comprend des versions alternatives, des phases B, des instrumentales, des lives et 6 titres inédits, dont la ballade jamais dévoilée Face It Alone, portée par la voix vibrante de Freddie Mercury qui résonne 30 ans après sa disparition. When something so deep and so far and wide falls down beside you, Christ.
can be heard so loud and clear. Your life is your own.
Bon, c'est peut-être pas le meilleur morceau de Queen. Mais en tout cas, quel bonheur d'entendre Freddie Mercury avec une chanson inédite. Cet album-là, The Miracle, c'est le premier album du groupe à ne pas être suivi d'une tournée à l'époque à cause de l'état de santé de Freddie Mercury qui était encore tenu secret. Mais il reste l'album le plus fort de Queen dans les années 80. Il va relancer le groupe aux États-Unis et d'ailleurs leur permettre de décrocher un disque d'or. Brian May a souvent cité une chanson de cet album qui s'appelle The Miracle comme sa préférée de tous les albums confondus de l'histoire de Queen, c'est celui-ci. Il y a le côté épique de Queen dans cette chanson que j'aime bien.
Brian May, vous l'avez pas dit, qui était le guitariste de Queen et qui avait été élu il y a quelques années meilleur guitariste de tous les temps.
C'est vrai. Donc même meilleur que Philippe Vandel.
Tu penses à la guitare, je fais quatre accords. La réédition complète de l'album The Miracle de Queen, on vient de le savoir. Une découverte maintenant, une nouvelle chanson de November Ultra.
November Ultra, c'est une voix douce et enveloppante, auteur d'une musique que j'aime qualifier de bedroom pop. Cette pop que l'artiste fait naître entre les murs de sa chambre, dans un univers réconfortant, fait d'édredons, de couettes chaudes, de coussins généreux, de tenues en pilou-pilou, tout ce qui vous parle vraiment, Sylvain Tesson. Mais parfois, l'aventure, elle se joue dans une chambre à coucher aussi, pourquoi pas. But there's one thing that I need, is to see your face tonight when I'm dreaming. 6 mois après la sortie de son album Bedroom Walls, la française November Ultra, oui, se moque de ma prononciation, c'est Bedroom Walls.
Walls, ça veut dire des murs.
Un November Ultra, elle continue de nous faire voyager avec ses chansons. Et voici le dernier né de la fratrie. Je vous propose de vous laisser bercer par sa voix, c'est une comptine pour adultes. Pour un voyage, Sylvain Tesson, c'est pas mal ça. Hein,
c'est beau, non?
Pour le grand froid.
Non, mais j'aime bien la notion de bedroom pop. Ouais. Est-ce qu'il y a un bedroom métal? Ça existe, là?
Je vais creuser pour vous.
C'est une invention à vous, c'est vous qui avez inventé ce genre.
Le bedroom pop?
Ouais.
Non, c'est elle.
C'est elle.
Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Elle sera en concert à la Cigale à Paris, November Ultra, le 5 avril 2023.
Merci beaucoup Stéphanie. Et vous, on vous retrouve aux commandes de l'émission Musique. C'est les samedis et les dimanches de 16 à 17 heures sur Europe 1. Ce samedi, il y aura du foot, donc ça m'étonnerait, mais vous y serez le dimanche.
Mais évidemment.
Quel bonheur. Dans un instant, on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun, toujours en compagnie de Sylvain Tesson. Culture Média marque une
Culture
pause.
Culture Média.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
On va parler de cinéma avec Olivier Benkemoun, toujours en compagnie de Sylvain Tesson. Vous avez le temps d'aller au cinéma, Sylvain Tesson, ou c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, sauf si on adapte l'un de vos propres livres?
Non, j'ai vu Drunken.
Ah, il paraît que c'est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire. Il y a une scène finale chorégraphique qui donne vraiment envie d'arrêter.
De voir
le film, non, ni d'aller au cinéma.
Ah, parce que moi j'ai appris ce que voulait dire Zapoy grâce à vous. Parce que vous buviez, vous aviez une sacrée descente. Vous pouvez le dire en deux mots ce qu'est le Zapoy dans la tradition russe.
Oui, le Zapoy, c'est en russe, c'est un mot qui signifie de maintenir l'état d'alcoolémie. Ça demande beaucoup d'efficacité, de discipline, de volonté, une certaine compétence. Et ce qui permet pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, de se maintenir dans un état. Ni trop, ni trop peu, quoi.
Et j'ai appris ça, c'est-à-dire que le type est en gare de Moscou, il prend un train et il ne sait pas dans quel état il est. Pendant 72 heures, incroyable. Il est dans cet état flottant, ivre, mais pas ivre mort, où il fait un peu n'importe quoi. Et il disparaît presque au monde.
C'est un
et
état
à lui-même.
Oui, c'est ça. C'est un état de flottaison. Il faut un peu au-dessus de l'habitude et un peu en deçà de l'apocalypse, quoi.
D'accord. Bon, donc
il y a un intervalle qui est très, très fin.
Et en voyant Drunken, vous avez arrêté de boire?
Non, mais en voyant Drunken, on voit qu'en fait, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une modalité qui s'invite dans cette tentative de régulation de soi-même et qui s'appelle la tentation.
Ouais.
Et en général, l'homme est fait pour succomber, quoi.
Olivier Benkemoun, vous aviez aimé Drunken?
Alors moi, je connaissais Drunk. Hein, parce que c'est
pour c'est peut-être le même, alors. Moi, je pensais que c'était le même.
Non, non, c'est,
ah, non, c'est le même.
Mais si c'est le même, c'est juste une question de prononciation.
C'est la prononciation bourrée.
Voilà. Mais donc, ça veut dire que depuis le 19 mai 2021, vous n'êtes pas allé au cinéma? Moi, je suis étonné.
Non, il dit c'est le dernier film qui l'a touché.
Ah, touché.
Et qui l'a marqué. Votre indispensable ce matin, Olivier, il est bleu.
Ouais.
Ça se boit pas.
Non.
C'est un film qu'on attend depuis 13 ans.
Exactement. Avatar 2, La Voix de l'eau.
Et les de fans, l'eau comme de l'eau qui se boit
de l'eau à boire.
Ah, dis donc l'enchaînement.
Voilà. Et les fans vont devoir attendre encore 7 jours, d'ailleurs, parce que le film sort que la semaine prochaine en France. Mais hier soir, il y avait la world première, l'avant-première mondiale à Londres. Pas de tapis rouge, mais de tapis bleu, parce que les personnages, les Na'vi, sont tous bleus, ils ont la peau bleue, et en plus, il est question des océans. Mais je voulais d'abord vous rappeler qu'Avatar, vous avez vu Avatar ou pas ?
Oui, le premier, oui.
Bah, il n'y en a eu qu'un pour l'instant. Sorti en 2009.
Hey, sois poli avec l'invité, évidemment. Respecte non,
mais,
un peu l'invité.
Mais je respecte, je rappelle.
Non, mais dis-le gentiment.
Ah, sorti en 2009, et à ce jour, le plus gros succès de l'histoire du box-office mondial.
C'est pas...
2,9 milliards de dollars de recettes. Il n'y avait pas eu mieux. Vu par 14 millions de spectateurs au moment de sa sortie en France. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'octobre dernier, le film a été reprojeté dans les salles françaises, et il a pris la tête du box-office avec 250 000 spectateurs de plus. Je pense que c'est la jeune génération qui sans doute n'avait pas vu le film, ou l'avait vu qu'en DVD, qu'il a redécouvert sur grand écran. Avatar, c'est avant tout une expérience, c'est pour ça que je prends cette voix. Une expérience de cinéma. James Cameron est un méga défenseur de la salle, on lui a fait 1000 propositions pour des plateformes évidemment. Pour lui, le cinéma c'est sur grand écran, et il le rappelait hier soir encore à la télé anglaise.
Le côté aller voir des films pour être en communauté, c'est pas la question. C'est plutôt entrer dans une grande salle noire et se laisser envelopper par une expérience de cinéma. Au point de ne même plus s'apercevoir que le gars derrière vous, il se bat avec son pop-corn.
Voilà, James Cameron, hier soir à Londres.
Oui, mais nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est, j'imagine que vous avez vu le film, c'est comment ?
C'est super, mais je ne peux rien vous dire, parce que je suis tenu par un embargo encore quelques jours.
C'est pas vrai.
Mais c'est comme ça, voilà, on signe des embargos, je pourrais vous dire comment c'est, je pourrais vous dire qui meurt, je pourrais vous dire que la fin, je peux rien dire. Je peux rien dire sous embargo.
Attendez, vous l'avez vraiment vu ?
Ah mais je l'ai vu.
Parce que moi, je connais des gens qui m'ont fait croire qu'ils l'avaient vu.
On s'allonge le temps
derrière l'excuse de l'embargo.
Attendez, je peux quand même vous dire que le film dure 3 heures.
Ouais.
Voilà. Plus une demi-heure de générique, tellement il y a de monde qui a travaillé dessus.
Oh.
Il a coûté 250 millions. C'est une expérience immersive. Moi, je pensais que les lunettes 3D au cinéma, par exemple, c'était ringard, c'était le passé. Pas du tout. Cameron m'a mis une gifle. Il a mis à profit ses 10 ans de préparation avant le tournage pour développer de nouvelles technologies qui rendent absolument dingue son voyage. Parce que son film, c'est un voyage, c'est la découverte d'un nouveau monde. Et c'est là que ça devrait vous intéresser, Sylvain Teston. Parce que sous couvert de science-fiction, il nous raconte dans quel état est la planète, James Cameron. Il nous raconte Pandora. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pandora, c'était la planète jumelle de la Terre qui était menacée par des militaires, par des fossoyeurs de la nature, par des gens qui voulaient s'emparer de cette planète et qui foutaient le feu aux arbres, aux forêts, qui détruisaient les peuples indigènes et des cultures. Et avec toute la magie du cinéma et de la technologie, dans le premier épisode, il avait inventé une poésie visuelle absolument exceptionnelle, une faune, une flore forestière phosphorescente remarquable, avec une légende autour d'un arbre auquel on se connectait, qui réunissait les hommes du présent, du passé, même du futur, une sorte de chamanisme. Voilà.
Mais ça, c'était le 1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 2.
Eh bien, dans 7 jours. Voilà. Mais là, le message, il est tourné plutôt vers la mer, ça je peux vous le dire, vers les océans, avec l'invention d'une vie aquatique absolument dinguissime, sur le plan visuel, avec des prédateurs humains, évidemment. On va écouter James Cameron, encore une fois, lors de la world première.
Beaucoup de gens avaient été sensibles au message du premier film sur la forêt tropicale et sur la protection des cultures autochtones. Ce film-là, c'est mon message d'amour aux océans et mon cri pour que chacun se sente responsable et les protège.
Voilà, moi ce que je trouve intéressant derrière les grandes œuvres, les grands spectacles, il y a cette intelligence d'être aussi un auteur conscient de l'environnement. Alors évidemment, ça ne changera peut-être pas votre comportement en sortant de la salle, vous continuerez à manger des pop-corn pendant les films, mais au moins, il y a ce message, ce voyage, cette magie, signé James Cameron, Avatar 2, La Voix de l'eau. Mais je peux rien dire avant une semaine.
Il a bon dos l'embargo, Sylvain Tesson. Est-ce que ça vous tente ?
Non, mais moi ça m'avait pas du tout touché en fait, Avatar le numéro 1.
Pour quelle raison ?
Parce que je trouve ça très bien, oui, le propos de la conservation nécessaire du trésor de la Terre, évidemment. Mais toutes les expériences d'imagination, de monde, d'outre-monde, me laisse tout à fait froid, moi, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est tellement beau, tellement mystérieux, qui est le musée réel, quoi, organique, la merveille, quoi, qu'on a sous les pieds et que, d'ailleurs, on est infoutu de conserver comme proprement, m'intéresse beaucoup plus. Moi, je trouve qu'il y a infiniment plus de merveille et de mystère dans la fractale des écailles de l'aile d'un papillon que dans toutes les imaginations qui pourront procéder des rêves, même du plus talentueux réalisateur et fabricant d'images visuelles, quoi. Ça ne m'intéresse pas, en fait, les outre-mondes qui procèdent de l'imagination. J'aime mieux me pencher sur le cœur des fleurs.
Le cœur des fleurs, le cœur de Sylvain Tesson est avec nous. Culture Média continue. Je remercie, je félicite Olivier Benkemoun. À tout de suite.
Dans 7 jours.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Sylvain Tesson qui signe ce livre En avant, calme et fou. C'est publié par Albin Michel. Je vais vous lire un compliment que j'ai lu dans la presse sur votre livre. L'ouvrage prend la forme d'un florilège de réflexions sur le voyage à moto. La beauté des images nous emporte au sens propre comme au sens figuré vers des contrées sublimes. Je ne pensais pas citer un jour Moto Magazine. Toute la presse a salué le livre, mais j'ai aimé qu'il y ait ce papier dans Moto Magazine. Et ça vous touche de toucher des gens qui habituellement ne vous lisent pas, de faire un grand écart, si j'ose dire?
Mais non, mais ce qui me touche, c'est qu'un journal de moto qui fait l'apologie de la mécanique, de la vitesse, de la puissance des moteurs, parle de la beauté. Mmh. Et c'est un peu notre objectif à Thomas Guasque, le photographe, et moi-même, et à tous nos amis, quand on fait ces espèces d'équipées à moto en Russie, en Mongolie, en Amérique du Sud ou en Inde, c'est d'aller passer en revue les formes de la beauté, quoi. Et on le fait à moto, alors évidemment, ça pétarade, quoi. Mmh. Mais... c'est relatif, quoi.
Oublions,
on fait que passer.
Oublions les pétaradages, photos absolument sublimes. Je regrette rarement d'être à la radio, mais là, je regrette parce que les images sont tellement, tellement belles. Comment vous avez travaillé parce qu'il faut bien quelqu'un pour prendre les photos. Quand vous êtes tous sur les sidecars, c'était un drone. Comment ça s'est passé? C'est quoi la logistique de, toutes ces opérations?
Non, jamais de drone, mais il y a Guasque, qui est un très vieil ami à moi, avec qui je voyage depuis 30 ans, et on se connaît tellement bien que je sais à peu près ce qu'il faut faire quand il nous commande de passer, de repasser encore avec les motos, quoi. Alors, on fait ça vraiment à l'ancienne, quoi. Il se poste quelque part, on passe, et puis après, éventuellement, on la refait, quoi.
Parfois, au détour d'une photographie, on voit une caméra. Ça fait partie du financement de ces voyages. C'est quoi le modèle économique de ça? Parce qu'on a tous envie d'être à votre place. On a tous envie de partir 4 mois rouler à moto quelque part dans des paysages sublimes. Mais il faut pouvoir se le permettre.
Il y a une production, soit un journal, soit une production de films. Avec un ami qui s'appelle Clément Gargoulot et qui a fait un certain nombre de films sur nos aventures à moto, qui ont été diffusés récemment. D'ailleurs, il y a eu il n'y a pas très longtemps sur Oucheuil à TV... La répétition de la route de Laurence d'Arabie en Jordanie, en Syrie, au Liban, qui a été filmée par Clément Gargoulot. Alors, entre la production du journal ou de la télévision, on finance ce voyage.
Voilà. À un moment donné, je vous entends, je vous vois dire beaucoup de bien de votre Yamaha Ténéré qui tombe jamais en panne. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il fait cet éloge? Et puis à la fin, j'ai compris, dans la dernière page, partenaire de l'ouvrage, il y a Yamaha. Il y a aussi votre assureur AXA, que je vais citer, et aussi Racine, je ne sais pas ce que c'est, mais je cite 3 marques pour ne pas déplaire à l'Arcom. Ils vous ont prêté les motos.
Mais c'est-à-dire que parfois, il faut mettre de l'essence dans un réservoir pour pouvoir avancer.
Oui. Ça ne m'a pas échappé.
Voilà, non, mais c'est ce que je veux dire par là, c'était une allégorie symbolique, quoi. C'est, parfois, il y a de l'essence, quoi. Il faut chercher l'essence là où elle se trouve.
Oxymore, vous dites, la fuite est le plus noble métier du monde. On pourrait rester une heure là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quelle noblesse y a-t-il à fuir?
Ben, je crois que dans la considération qu'on peut porter sur l'existence et sur sa vie, il n'y a pas 36 options, quoi. C'est-à-dire que quand on débarque dans la vie, quoi, quand on est au seuil sur le parvis de son existence, c'est-à-dire quand on est adolescent, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on décide d'embrasser le monde, soit on décide de l'affronter, alors on devient militant, soit on décide de s'y conformer parfaitement, alors on fait HEC, et soit on décide de faire demi-tour, c'est éventuellement, ou alors on prend la tangente, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ça que j'ai demandé au mouvement, quoi. C'est de m'offrir des espèces de portes de sortie, des escaliers de secours, comment on appelle ça, des escaliers de service. Moi, j'adore que ma vie soit un escalier de service, quoi. J'ai passé ma vie dans les escaliers de service, c'est la pièce que je préfère dans un bâtiment. C'est la manière dont on peut tout à coup prendre la tangente, la contre-escarpe, la fuite, la poudre d'escampette. Alors la moto, pour ça, est une navette.
Vous allez pouvoir retourner en Russie?
Oui, bien sûr. J'espère retourner en Russie. Moi, je distingue le territoire de l'État et le peuple de son gouvernement.
Vous vous êtes trompé sur Poutine. Je me souviens dans votre livre, une très légère oscillation que j'avais lue, c'était en 2017, c'était un recueil de votre journal 2014-2017. Vous disiez que l'Occident se trompait en substance sur Poutine. Finalement, malheureusement, l'Occident ne s'est pas trompé et Poutine a bien envahi l'Ukraine.
Oui, malheureusement, moi ça fait depuis 91, depuis la chute de l'Union soviétique, que je voyageais à raison de plusieurs fois par an en Russie et j'avais été désespéré de voir l'état de la Russie dans les années 90, quoi, jusqu'en 2000. Et j'ai fait partie de quelques-uns qui se félicitaient, peut-être sans grand mot, mais de l'arrivée de Poutine qui avait offert à la Russie autre chose que... un désespoir, quoi. Alors, sans doute, me suis trompé. Peut-être n'ai-je pas eu la puissance intellectuelle, l'intelligence, la fondation culturelle, peut-être, pour comprendre qu'il y avait le satrape qui était dans le président. Quoi.
Beaucoup se sont trompés à ce moment-là. Si vous remontez à 91, le Poutine de 91 n'était pas celui de 2021.
Oui, enfin, j'ai pas compris que celui de 99 n'était pas le même que celui de Beslan en 2006 ou 2008, qui n'était pas le même que celui de Maïdan en 2014, qui n'était pas le même de celui de Mariupol... atroce actuellement.
Question personnelle que je ne me permettrai jamais de citer si vous n'en aviez pas parlé. Vous avez des enfants ?
Non.
Vous avez dit, vous avez promis, c'était en 2005 à Libé, que vous feriez des enfants quand il n'y aura plus d'embouteillage, Porte d'Orléans. Non, je voulais savoir où vous en étiez sur ce chapitre.
J'ai mis 3 heures pour venir ici, donc c'est un moyen contraceptif, si vous voulez. Mais j'ai un sidecar, alors j'ai un panier où je pourrais en mettre.
Vous roulez vraiment en sidecar dans Paris ?
Ça m'est arrivé, oui. Ouais. Ça m'est arrivé, mais j'aime bien ça parce que c'est inefficace. Ça combine les désavantages de la voiture avec les inconvénients de la moto.
Totalement.
J'aurais dû être publicitaire.
Mais tellement. Merci beaucoup Sylvain Tesson. Je rappelle ce très beau livre illustré en avant, calme et fou. C'est sous-titré une esthétique de la bécane avec des photographies absolument somptueuses de Thomas Gouasque. Et puis je cite aussi dans la collection Blanche chez Gallimard ce roman blanc. Merci d'avoir été avec nous pendant une heure et en direct. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler d'un cash investigation, l'émission de France 2 qui lève le voile sur les plus gros fraudeurs de la sécurité sociale. Nous serons avec le réalisateur et journaliste Donatien Lemaître et puis la chanteuse Juliette Armanet qui rallume la flamme, avec la réédition de son album Brûler le feu, certifié disque de platine, oui, mais augmenté de 5 nouveaux titres. Julia Vignali, Mélanie Gomez, elles sont déjà dans ce studio, bien fait pour vous. Ça va démarrer dans quelques instants. Quel sera le programme ?
Bonjour Philippe. Écoutez, est-ce que vous êtes du genre, je sais pas, à passer pas mal de temps à vous regarder dans le miroir ?
Jamais. Je déteste.
Vous aimez qu'on parle de vous ?
Je déteste.
Ah bah alors, vous
n'êtes pas dans le sujet, je crois.
C'est bizarre. Non, ouais. Vous n'avez pas une haute opinion de vous-même ?
Pas du tout.
Bon, Sylvain.
On me dit même de le cacher.
Ah, carrément.
Et de pas faire de l'auto.
Bon, cette émission n'est pas pour vous, elle est pour tous les autres et pour beaucoup d'entre nous. Nous allons parler des personnalités narcissiques, des personnalités parfois difficiles, hein, Mélanie, à supporter.
Ah oui. Ah ben, voilà. On va essayer de voir si on peut les comprendre déjà et peut-être les aider, les accompagner. Et ensuite, on aura également des astuces pour régaler nos convives lors des réveillons sans se ruiner. Ouais. Et puis, il y aura une chronique lecture jeunesse également sur des bouquins qui permettent d'aborder le thème du handicap avec les enfants.
Imagine si j'avais dit oui aux premières questions, j'aurais appris que j'étais une personnalité difficile à supporter.
Oui, c'est ça.
Donc, il vaut mieux ne pas aimer voir sa tête dans un miroir. Vous aimez vous voir dans un miroir, Sylvain Tesson ?
Ça me rend misanthrope.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut.